Lors de ma dernière prédication, je vous avais déjà parlé de Salomon, du roi Salomon. Rappelez-vous, ce fils de David est devenu roi alors qu'il était encore jeune. Nous sommes à peu près en l'an 980, entre 980 et 930 avant Jésus-Christ. Le livre des rois nous apprend que ce roi Salomon aimait l'Éternel et qu'il voulait gouverner avec droiture. Lorsque Dieu lui demande ce qu'il veut recevoir de la part de Dieu, quel don il veut recevoir, Salomon demande la sagesse. Nous avions vu ça la dernière fois. Et cette sagesse lui est donnée, une sagesse qui devient même célèbre à cette époque. À cette époque, donc, Salomon devient célèbre par sa sagesse. Alors, que va faire Salomon avec cette sagesse? Eh bien, très vite, dès qu'il commence à régner, il se préoccupe de construire le temple de Dieu. Ce temple, David avait voulu le construire. Vous savez que quand le peuple avait traversé le désert, il y avait une sorte de temple portatif, démontable, qui s'appelait le tabernacle, dans lequel il y avait notamment l'arche, le coffre de l'Alliance, qui contenait les tables de la loi. Et David avait voulu que ce coffre de l'Alliance, que cette arche de l'Alliance, puisse reposer dans un temple en dur, maintenant que le peuple n'était plus nomade, mais qu'il avait un pays et des villes solides. Mais Dieu avait refusé, en lui disant non, le temple c'est une bonne idée, mais c'est pas toi qui le construiras, ce sera ton fils. Donc dès qu'il est roi, Salomon se préoccupe très vite, et la première chose qu'il fait, c'est réunir les matériaux. Et pour cela, il utilise l'amitié qu'il a avec le roi de Tyr. Tyr, ça serait au Liban à notre époque. Le roi de Tyr, qui était ami avec David et qui reporte son amitié sur Salomon et qui lui fait parvenir des matériaux et aussi des artisans pour construire ce temple. Et ce temple, ceci nous est raconté donc dans les chapitres 5, 6 et 7 du premier livre des rois, et cette construction va durer 7 ans. Et une fois que le temple est construit, il va transférer dans ce nouveau temple le coffre de l'Alliance et les ustensiles du culte qui étaient donc dans le tabernacle. Je vous invite à lire donc dans le premier livre des rois au chapitre 8 et on va lire à peu près tout le chapitre. Vous, de temps en temps, pour pas trop perdre de temps, je sauterai quelques versets. Donc, premier livre des rois, chapitre 8, verset 1. Alors, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem tous les responsables. Voilà. Tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs des familles des Israélites pour leur faire transporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Verset 4. Les prêtres et les lévites transportèrent le coffre de l'Éternel ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés qu'elle contenait. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël, rassemblés auprès de lui devant le coffre, offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et de gros bétail qu'on ne pouvait évaluer. Les prêtres installèrent le coffre de l'Alliance à la place qui lui était destinée dans la salle au fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Verset 9. Dans le coffre, il y avait seulement les deux tablettes de pierre que Moïse y avait déposées à Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. Alors Salomon dit, « L'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. » Oui, si vous regardez l'architecture du temple, il n'y a pas de fenêtre. Donc, au fond du temple, donc ce temple, il était en gros divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, c'était vraiment un lieu obscur. Mais on voit que dans ce lieu obscur, il y a la nuée lumineuse qui va le remplir. Donc, je reprends ma lecture, verset 12. « L'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. » J'ai enfin bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Et il dit, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de sa propre bouche a parlé à mon père David et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Il lui avait dit, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Israël d'Égypte, je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent, mais j'ai choisi David pour gouverner mon peuple Israël. » Verset 20, « L'Éternel a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David et j'occupe le trône d'Israël comme l'Éternel l'avait annoncé. » Et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé un emplacement pour le coffre qui contient le code de l'alliance de l'Éternel, cette alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. Puis Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en faisant face à toute l'assemblée d'Israël et il leva les mains vers le ciel. Et il pria. « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance, et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon sa volonté de tout leur cœur. » Verset 27. Un passage, une phrase importante. Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre, alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de construire? Je vous ai lu cette phrase dans la traduction du Semeur, qui est une traduction, on appelle ça une équivalence dynamique. C'est quelque chose qui doit rendre une idée, plus que les mots eux-mêmes. Mais les mots eux-mêmes disent « Est-ce que Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel et même les cieux des cieux ne pourraient pas le contenir ?» Et je trouve dommage qu'on ait un peu perdu dans la traduction cette expression que Salomon emploie. Que le ciel du ciel ne peut pas te contenir. Alors, si le ciel du ciel ne peut pas te contenir, comment est-ce que tu pourrais rentrer dans cette maison que moi j'ai construite ? Verset 28. « Toutefois, Éternel, mon Dieu, veille être attentif à la prière et la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse en ce jour. » Que tes yeux veillent nuit et jour sur ce temple, ce lieu dont tu as toi-même dit, là, je serai présent, et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. Daigne écouter ma supplication et celle de ton peuple Israël lorsqu'il viendra prier ici. Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veuille pardonner. verset 33. Quand ton peuple Israël aura été battu par l'ennemi, parce que ses membres auront commis une faute envers toi, si ensuite ils reviennent à toi et ils te louent, s'ils t'adressent leurs prières et leurs supplications dans ce temple, écoute-les depuis le ciel, pardonne la faute de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leurs ancêtres. Verset 37. Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes de maladies, quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans les villes du pays, quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui, si, considérant sa peine, chacun tend les mains vers ce temple, veuille exaucer du ciel, le lieu où tu demeures, les prières et les supplications que t'adressera tout homme ou tout ton peuple Israël. Pardonne-leur et interviens en traitant chacun selon sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, toi seul, tu connais le cœur de tous les humains. De cette manière, ils te révéreront tout le temps qu'ils vivront sur l'étendue du territoire que tu as donné à nos ancêtres. Et même si un étranger qui ne fait pas partie de ton peuple entend parler de toi et vient d'un pays lointain, car les étrangers apprendront que tu es un grand Dieu qui agit en déployant sa puissance. Quand un étranger viendra prier dans ce temple, veuille écouter depuis le ciel la demeure où tu habites et lui accorder tout ce qu'il t'aura demandé. De cette manière, tous les peuples du monde te connaîtront. Ils te révéreront comme le fait ton peuple Israël et ils reconnaîtront que le temple que j'ai construit t'appartient. Lorsque ton peuple partira pour combattre son ennemi sur le chemin où tu l'enverras, s'il prie l'Éternel en se tournant vers la ville que tu as choisie et vers ce temple que j'ai construit en ton honneur, daigne écouter depuis le ciel leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Il se peut qu'ils commettent un péché contre toi, car quel est l'homme qui ne commet jamais de péché? Alors tu seras irrité contre eux. Tu les livreras au pouvoir de leurs ennemis qui les amèneront en captivité dans un pays ennemi, proche ou lointain. Si alors ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, s'ils reviennent en arrière et t'adressent leurs supplications dans le pays de leurs vainqueurs, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être, dans le pays des ennemis qui les auront déportés, s'ils te prient en se tournant vers ce pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie, vers le temple que j'ai construit en ton honneur, alors depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi et toutes les fautes contre toi. Inspire à leurs vainqueurs qui les retiennent captifs de la compassion pour eux et qu'ils aient compassion d'eux. Verset 54. Lorsque Salomon eut terminé toute cette prière de supplication à l'Éternel, il se releva de devant l'autel de l'Éternel où il était resté agenouillé, les mains levées vers le ciel. Il se releva et d'une voix forte, il bénit toute l'assemblée d'Israël en disant « Loué soit l'Éternel qui a accordé la paix à son peuple Israël, conformément à ses promesses. En effet, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a jamais manqué de se réaliser. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il l'a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il ne nous délaisse pas, mais qu'il incline notre cœur vers lui pour que nous marchions dans les voies qu'il a prescrites pour nous en obéissant à ses commandements, ses ordonnances et ses lois qu'il a données à nos ancêtres. Puisse l'Éternel, notre Dieu, prendre en considération jour et nuit toutes les prières de supplication que je viens de lui présenter et défendre jour après jour la cause de son serviteur et de son peuple Israël. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et quant à vous, que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel notre Dieu, pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois, que vous obéissiez à ses commandements, comme c'est le cas aujourd'hui. Une lecture assez longue, mais que je vais un tout petit peu commenter, mais qui est assez éloquente en elle-même. Salomon n'est pas un païen. Il sait que son Dieu, l'Éternel, n'est pas une idole ou une divinité païenne. Vous savez, ces divinités qu'on ne peut adorer qu'à un seul endroit. On va se prosterner devant leur statue, devant leur image. Mais une fois qu'on est sorti de leur temple, une fois qu'on est plus loin, on ne peut plus leur parler. Salomon sait très bien que son Dieu n'est pas comme ça. Et il se pose la question, est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre? Alors que le ciel, dans toute son immensité, on a vu tout à l'heure, le ciel du ciel, ne peut le contenir. Salomon a construit un temple pour que Dieu habite, mais il sait que Dieu est bien plus vaste que cela. Que Dieu ne peut pas être enfermé dans un édifice. Pourtant, il a vu la nuée qui venait remplir le temple. En montrant que Dieu approuve cette construction, qu'effectivement il est là. Mais il sait très bien que Dieu n'est pas que là, qu'à cet endroit. Cette nuée va rester sur ce temple pendant des siècles, mais un jour, elle va quitter le temple. C'est lorsque le peuple, ayant accumulé des fautes, ayant abandonné son Dieu, pour la majorité d'entre eux, pas tous, heureusement, mais pour la majorité d'entre eux, c'est Ézéchiel qui nous raconte. Vous savez, le prophète Ézéchiel, il fait partie de ces déportés. Vous avez vu que Salomon nous prévoit qu'un jour il y aura des déportés. Eh bien, Ézéchiel fait partie de ces déportés. Il est loin, il est en Mésopotamie. Et quand vous lisez le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez une description de la gloire de Dieu qui est devant Ézéchiel, donc qui n'est pas à Jérusalem quand Ézéchiel voit cette vision. Et Ézéchiel comprend que la gloire de Dieu, elle n'est pas que dans le temple. Elle est sur toute la terre. Et lui qui est déporté et qui est loin, cela va le rassurer. Et puis un peu plus tard, il voit dans une vision la gloire de l'Éternel quitter le temple. Et quelques années ou quelques mois plus tard, après cette vision, ce temple sera détruit par Nabucodonosor. Donc, Salomon se pose la question, mais est-ce que Dieu habiterait vraiment sur la terre? Ce qui revient à se poser comme question, mais finalement, à quoi il sert ce temple que j'ai construit? Pourquoi est-ce que j'ai construit un temple alors que on ne peut pas enfermer Dieu dans un temple? Il est frappant que ce soit lui, Salomon, lui le bâtisseur du temple, qui est en même temps le critique du temple, en disant, bon, j'ai construit un temple, mais finalement, pourquoi? Je ne peux pas enfermer Dieu dans le temple. Alors, il va donner, pour répondre à cette question, il va donner des exemples. Vous les avez entendus tout à l'heure, quand on les a lus. Et ces exemples, ils sont aussi frappants. Lorsque quelqu'un viendra prier ici, tu l'entendras depuis le ciel où tu demeures. C'est étonnant comme façon de parler. Je viens de voir la nuée être ici, mais quand quelqu'un viendra prier ici, toi tu l'entendras depuis le ciel, depuis l'immensité de la création que tu habites et où tu demeures. Et puis on voit que quand on continue la lecture, le lien avec le temple se détache petit à petit. Un peu plus loin, il dit « Lorsque quelqu'un priera en tendant les mains vers le temple », donc il sera à l'extérieur, il ne sera plus dedans, « tu l'entendras depuis le ciel, depuis le lieu où tu demeures. » Et puis ensuite, il dit « Lorsque quelqu'un aura été déporté et qu'il priera en se tournant vers ce pays, tu l'entendras depuis le ciel. » Pour résumer, le temple, ce n'est pas un lieu magique. C'est un lieu symbolique. Il rappelle la présence de Dieu. Dieu habite dans le temple, la nuée le prouve, mais Dieu est partout. Salomon emploie donc cette expression que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Que Dieu est bien plus vaste que toute sa création. Le temple est donc un lieu destiné à faciliter la rencontre entre son peuple et Dieu. Et un peu plus tard, beaucoup plus tard, donc nous sommes là en 960 avant Jésus-Christ, hein, et quelques années après Jésus-Christ, l'apôtre Paul va dire à Athènes, hein, il est en voyage, vous savez que l'apôtre Paul a beaucoup voyagé, au cours de son voyage, il est à Athènes, dans le livre des Actes au chapitre 17, et il dit ceci aux Athéniens, parce qu'il a visité la ville et il a trouvé beaucoup de temples pour des tas de dieux différents. Et il dit aux Athéniens, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui se trouve, qui est le Dieu du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Dieu n'a pas besoin de temple pour lui. Pour lui, le temple ne sert à rien. L'utilité du temple, elle est pour les hommes. C'est un point de repère. C'est un lieu unique qui enseigne au peuple d'Israël aussi que son Dieu est unique. C'est un lieu où se trouve le corps de l'Alliance qui contient donc les tables de la loi, l'Alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Ce peuple-là a donc besoin de ce témoignage. C'est aussi un lieu magnifique, parce que le temple de Salomon était une merveille. Et aussi, il était célèbre pour sa beauté, ce temple. Et ce lieu magnifique enseignait aussi la grandeur de Dieu, que Dieu était un Dieu très grand, très puissant. Il l'enseignait au peuple d'Israël, mais aussi à tous les autres peuples. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui est complètement absent de la prière de Salomon? Quelque chose qui est frappant. Qu'est-ce qu'on faisait dans le temple? Des sacrifices. Et Salomon ne mentionne absolument... Il a fait des sacrifices, mais dans sa prière, il ne dit pas... C'est presque étonnant qu'ils ne disent pas « Eh bien, j'ai fait un temple pour qu'on puisse venir faire des sacrifices. » Il dit « J'ai fait un temple pour qu'on vienne prier. » Et la suite de l'histoire du peuple d'Israël montre que beaucoup de gens dans le peuple avaient oublié que ce temple, il était là pour prier. Et n'avaient gardé que l'aspect rituel. On offrait des sacrifices, on croyait comme ça se mettre en règle avec Dieu, et après on faisait ses petites combines de son côté. Mais Salomon, fils de David, sait bien que les sacrifices n'ont de valeur que s'ils expriment des prières, que s'ils expriment ce qu'on a au fond du cœur. Alors, je voudrais conclure. Donc Salomon a construit un temple sur l'ordre de Dieu, mais pas pour les besoins de Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de ce temple. Pour les besoins des hommes. Ce temple donc permettait aux hommes de réaliser la grandeur de Dieu et le fait que Dieu est unique. Alors que Dieu entend les prières, quel que soit l'endroit où elles sont prononcées, même quand on est en exil, d'après Salomon, il les entend depuis le ciel où il habite. Mais les hommes ont besoin d'être assurés. Ce temple leur donne le sentiment que Dieu les écoute. Plus tard, ce temple va évoluer. Je vous ai dit tout à l'heure, donc ce temple, voilà. Ce temple, il est le lieu où est symbolisée l'ancienne alliance, la loi, avec les tables de la loi qui sont dans le coffre de l'alliance. Il a été construit à peu près 960 ans avant Jésus-Christ et il sera détruit en 586 avant Jésus-Christ par l'empereur de Babylone, Nabucodonosor. Et si Dieu a laissé faire cela, c'est parce que son peuple l'a abandonné. Voilà. Donc, les gens sont déportés, ça va durer 70 ans, et en 516, donc 70 ans après, Esdras revient à l'autorisation de revenir de déportation pour commencer à construire le deuxième temple. Ce deuxième temple va être utilisé pendant plusieurs siècles, mais 20 ans avant Jésus-Christ, le roi Hérode va l'embellir, va l'agrandir. Ce qui fait qu'à l'époque de Jésus, on appelle souvent ce temple le temple d'Hérode. Et quand vous lisez les évangiles, vous voyez l'expression « le temple d'Hérode ». Et le temple, en fait, ce n'est pas Hérode qui l'a construit, mais c'est Hérode qui l'a embelli. Et donc, on ne verra pas, dans ce deuxième temple, on ne verra pas revenir la nuée comme on l'avait vu dans le premier temple. Et ça a désolé les Israélites. On voit ça notamment dans le livre d'Agé. Agé qui est présent à l'époque de la construction de ce temple et qui déplore qu'il est beaucoup moins beau que celui que Salomon avait construit. Mais il y a une prophétie qui disait que la gloire, que l'Éternel lui-même viendra dans ce temple. Et ce temple a été utilisé par Jésus qui a enseigné dans ce temple. Peu de temps après Jésus, en l'an 70, les Romains ont détruit ce deuxième temple. Ce deuxième temple qui donc finit complètement sa destruction marque qu'on a fini avec l'ancienne alliance, avec la loi. Et que la nouvelle alliance apportée par Jésus-Christ, l'alliance de la grâce, et maintenant cette alliance qu'il faut, dont nous bénéficions, nous, maintenant. Cette alliance, elle n'est plus symbolisée par le coffre de l'alliance, par l'arche qui contient les tables de la loi, mais elle est symbolisée, l'habitude me fait montrer une table qui aujourd'hui est vide, mais elle est symbolisée entre autres par la scène, par le repas du Seigneur qui nous rappelle la nouvelle alliance en son sang. Ce n'est plus l'alliance de la loi, c'est l'alliance de la grâce. Et ce changement d'alliance repose donc sur la vie parfaite de Jésus, sur la mort de Jésus à la croix, à notre place, et sur sa résurrection le troisième jour. Et ce changement d'alliance, il est aussi matérialisé dans nos Bibles, par le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alors, puisque nous sommes dans une nouvelle alliance, il faut que nous nous posions des questions. Pour nous, où est le temple ? La question que pose Salomon, elle est aussi pertinente pour nous. Dieu habite-t-il sur la terre ? Lui que le ciel ne peut plus contenir. Est-ce qu'il y a un endroit où Dieu habite ? Ou est-ce qu'il habite davantage dans certains lieux que dans d'autres ? Dans un temple, dans une église, dans une cathédrale, au Vatican ? Lorsque nous le prions, est-ce que nous sommes au bon endroit pour prier ? Est-ce qu'il y a un endroit qui vaut mieux qu'un autre pour prier ? Où est-ce que nous pouvons rencontrer Dieu maintenant ? Eh bien, je suis désolé, mais la suite, on la verra une autre fois. À suivre. Et merci de votre attention.